Alors, René, bonsoir. Eh bien, ce soir, nous allons donc écouter une conférence sur la souffrance. Alors, maintenant, eh bien, nous allons faire une petite lecture extraite des Vérités éternelles, un passage d'un exposé de Robert Crozier, justement. En ce monde, nous n'échappons jamais à la peine, au chagrin et à la souffrance. Les plaisirs vont et viennent d'un vol léger, mais le chagrin et la souffrance de la vie elle-même demeurent près de nous en permanence. Si nous pouvions voir et comprendre l'origine de la douleur partout présente dans le monde, non seulement des afflictions de la vie quotidienne, mais aussi de celles qui résultent d'actes collectifs, comme les guerres, nous cesserions de la produire. Nous avons supposé que toutes ces souffrances étaient dues à des causes extérieures, à un ou plusieurs êtres de caractère supérieur, ou à des lois universelles qui nous échappent, mais jamais à nous-mêmes. Et comme nous n'avons jamais intégré l'idée que nous étions, d'une manière ou d'une autre, liés à la genèse des souffrances que nous endurons, nous continuons d'en chercher le remède à l'extérieur. Aucune des religions qui ont jamais existé à la surface de la Terre, aucun des succès que les sciences ont pu ou pourraient remporter, ne nous donnera jamais cette connaissance, car la cause de la douleur ne nous est pas extérieure. Elle réside en chacun de nous. Chacun, en effet, a en lui le pouvoir de produire de la souffrance et aussi bien celui de la faire cesser. Place maintenant à la conférence.
Alors, amis, il n'est pas utile de réfléchir beaucoup pour voir qu'il y a de la souffrance partout dans le monde. Depuis des temps immémoriaux, les hommes se font la guerre et ceci engendre des handicaps, des blessures, la famine, parce que pendant qu'ils se font la guerre, ils ne pensent pas à cultiver leur champ. Et puis, malgré les livres d'histoire qui nous racontent toutes ces guerres, on voit bien que l'homme n'a pas acquis beaucoup de sagesse, il n'en tire pas beaucoup de leçons. La violence est partout présente, qu'elle soit physique, mentale, verbale, et ceci engendre énormément de souffrance. La souffrance aussi, on la trouve avec la maladie, bien sûr, les accidents de la vie, et puis les choses qui ne vont pas comme on voudrait, le temps qui passe trop vite, nos désirs qui sont toujours contrariés, nos projets qui n'aboutissent pas. Tout ça provoque énormément de souffrance et on peut dire avec certitude que tout homme sait ce que souffrir veut dire. Alors, il y a bien évidemment la souffrance physique et la souffrance morale. Alors, la souffrance physique, elle est due par le corps qui est endommagé par une maladie ou la dégénérescence due à la vieillesse et puis à la mort inexorable du corps. Elle est due donc aussi aux accidents de la vie, bien évidemment. Et on dit qu'il y a certaines maladies qui sont psychosomatiques. Alors là, ça veut dire que l'origine de la maladie viendrait du psychisme de l'individu. Un individu torturé, qui est toujours angoissé, ça va jamais bien, qui voit toujours l'aspect négatif des choses, c'est vrai qu'il pourrait provoquer des problèmes au niveau de son corps. On comprend aussi que il y a bien sûr ces maladies psychosomatiques, mais on sait avec la science, avec la médecine holistique, que finalement pratiquement toutes les maladies trouvent leur origine dans la façon dont nous réagissons aux événements, au stress de la vie, comment on encaisse les chocs, bien évidemment, et puis aussi à la façon dont on conçoit la vie surtout la philosophie qu'on a de la vie. Donc ça c'est aussi important parce que ça détermine aussi comment on va accepter les choses qui nous arrivent. Donc, on voit qu'il y a de la souffrance partout et on se demande comment on va pouvoir soulager le monde, comment on va pouvoir faire. Et puis, mais on pourrait dire quand même qu'il y a beaucoup de souffrances qui pourraient être évitées. Déjà, si l'homme était beaucoup plus fraternel, s'il ne faisait pas aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse, si on traitait les autres comme on voudrait être traité, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui changeraient. D'abord, il n'y aurait plus de guerre, il y aurait plus de, beaucoup moins de violence, en tout cas, de la violence voulue. Mais aussi, le problème, c'est qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas éviter. Et dans la Bhagavad Gita, il nous est dit qu'il ne sert à rien de se lamenter sur l'inévitable. Et l'inévitable, c'est quoi? Ben, c'est par exemple la mort. La mort est inévitable. On peut éventuellement retarder son arrivée par la médecine qui est toujours de plus en plus pointue, par des traitements, mais elle arrivera un jour ou l'autre. Donc ça, c'est inévitable. On ne peut pas non plus éviter des événements qui sont sur le point d'arriver parce que les causes ont été engendrées et les événements sont là, prêts à se manifester. Ça, malheureusement, on ne peut pas éviter. Donc, ça fait partie aussi de l'inévitable. Mais par contre, on peut éviter de produire des causes qui vont produire de mauvais effets. Et ça, ça peut être évité. C'est évitable. Alors maintenant, pour comprendre toute cette souffrance, pour comprendre comment on peut l'éviter, est-ce qu'on peut s'en affranchir, eh bien, il va falloir déjà comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Pourquoi le monde est comme il est? Pourquoi il y a, avec les autres, il y a des tensions, tout ça? Il faut essayer de voir ces choses. Alors, pour comprendre les choses, ben, la théosophie a beaucoup à nous apprendre, a beaucoup à nous dire. D'abord, il faut comprendre qui on est, et il faut comprendre aussi le monde, pourquoi il est comme ça, ce monde. En fait, il faut, déjà avec la théosophie, on sait que nous sommes une âme en évolution. On n'est pas ce corps physique. Le corps physique est un instrument qui va nous permettre d'agir, d'interagir dans le milieu, de faire des expériences de conscience et de s'éveiller quelque part aussi. Mais d'éveiller quoi? Notre âme profonde qui est en évolution. Et cette âme profonde, elle est enracinée dans l'esprit universel, l'esprit un. Et dans notre nature, ce qui est réellement permanent, parce que c'est jamais né, non né, c'est notre pouvoir de conscience, et ce pouvoir de conscience, il ne s'éteint jamais. Seulement, nous, on a besoin de faire des expériences de conscience grâce à la manifestation pour pouvoir éveiller tous les pouvoirs de conscience et pour pouvoir avoir précisément des états de conscience sur les plans sur lesquels on se trouve. Et donc, à partir de cet esprit qui est éternel, immuable, sur lequel on ne peut rien dire, bien évidemment, eh bien, va se déployer un monde qui va se concrétiser de plus en plus jusqu'au plan de la matière. Et dans tous ces mondes, dans tous ces plans, il y a une multitude de vies en interaction les unes avec les autres. Et l'ensemble évolue de concert. Et nous évoluons avec toute la nature. Et nous sommes formés de toute la nature. Tous les règnes sont en nous. Et l'ensemble avance, évolue, et il va falloir retourner à la source, mais en ayant glané toute cette expérience, toute cette richesse, et qui fait qu'on va éveiller de plus en plus les pouvoirs qu'on a en soi. Et donc, on comprend qu'il y a ce qui est non manifesté, cet esprit et la manifestation de cet univers, tout simplement. Et il faut comprendre que tout cet univers, il a un cycle de vie. Il va naître, il va se déployer, puis après il va dégénérer pour retourner à la source, à l'homogénéité. Donc c'est un cycle de vie immense. C'est un avec 15 chiffres d'années solaires. Donc c'est énorme. Et dans ce grand cycle de vie, il y a une multitude de cycles qui sont imbriqués. Par exemple, il y a la durée de vie d'un système solaire, d'un monde, d'un être humain, de ce qui compose le corps d'un être humain, les cellules, les atomes. Et tout ça, ça fait des expériences d'une façon alternée, c'est-à-dire, il va y avoir la, la manifestation de la conscience sur le plan sur lequel elle est active. Et puis après, il va y avoir une période de repos. Mais c'est une période de repos, c'est une période d'assimilation. Et quand, ces consciences, ces petits pouvoirs de conscience reviennent à l'activité, c'est avec un plus. Et c'est comme ça qu'on évolue, comme ça qu'on grandit. Il faut savoir que l'homme, eh bien, il n'a pas qu'une seule vie. Et il n'est pas là placé au hasard. En fait, il a créé des causes qui font que les circonstances sont telles qu'elles sont parce qu'il a créé des causes. Donc, quand on comprend ça, on comprend aussi qu'il y a une grande unité et que cette unité, elle fait partie de cet esprit, de notre nature profonde dans laquelle on est tous enracinés. Mais il faut savoir que c'est quand il y a perturbation de cette unité qu'il va y avoir souffrance. C'est là la genèse de la souffrance. Et il faut qu'on comprenne ça. Alors, maintenant, quand on sait ça, on va se demander, mais pourquoi ? Pourquoi nous perturbons l'équilibre? Pourquoi l'équilibre de cette unité? Parce que l'unité doit être respectée à tous les niveaux. Et quand il y a des équilibres, eh bien, il y a cette loi de karma, de cause et d'effet, qui va rétablir cet équilibre et en même temps qui va nous pousser dans le sens de l'évolution. Alors pourquoi perturbons-nous cet équilibre? Alors il faut comprendre qu'on est comme un rayon de ce soleil spirituel, donc cette grande conscience, une, si vous voulez, un rayon. Mais quelle différence y a-t-il entre le rayon et le soleil? Est-ce que le rayon, c'est un petit bout de soleil? On est des milliers de petits bouts de soleil? Eh bien non. Le rayon, c'est le soleil lui-même. La seule spécificité du rayon, c'est de s'être éloigné un petit peu du soleil. Mais il n'en est pas séparé. Et quelle différence y a-t-il entre deux rayons, entre tous les rayons? Mais il n'y en a aucune. Nous sommes tous ce même pouvoir de conscience, mais nous avons des expériences différentes et qui vont nous amener à réintégrer cet esprit. Et donc, nous avons toutes les potentialités de l'esprit en nous, toutes les facultés de l'esprit en nous. Mais le problème, c'est que nous les limitons à cause de notre vision, parce que nous nous croyons séparés. Il y a moi et vous, il y a moi et la nature. Et donc, le fait de se sentir séparé, eh bien, ça limite considérablement nos capacités d'action, de conception d'ailleurs, d'action, et voilà, et on n'arrête pas de créer dans l'illusion les choses, et petit à petit, on est arrivé à une civilisation comme on l'a actuellement, mais elle est le résultat de toutes nos erreurs, de toutes les façons dont on a conçu les choses d'une façon complètement erronée. Parce que l'esprit est immuable au cœur de chaque être. C'est la force qui va amener l'évolution, amener la manifestation à évoluer. C'est la force qui maintient en cohésion une entité, un être, mais c'est la force aussi qui lie l'ensemble des individus, ensemble et avec toute la nature. Et donc chaque être est le résultat d'un épanouissement qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire de l'esprit, vers l'extérieur. Et donc si on est dans l'erreur, évidemment on a créé les choses avec notre faculté de penser et tout, et voilà, on se retrouve avec un monde un petit peu chaotique, mais il faut comprendre qu'on est là placé exactement où il faut. Et c'est nous-mêmes qui devrons rétablir l'équilibre que l'on a nous-mêmes perturbé. Et donc, actuellement, on se retrouve face à nos erreurs, face à tout ce qu'on a, à cette façon erronée qu'on a de se manifester avec nos défauts particuliers. Et voilà qu'on se trouve confronté avec des êtres qui vont nous faire souffrir. Mais c'est nos défauts qu'ils manifestent devant nous. Et à partir du moment où on comprend les choses, on comprend qu'il ne faut pas être égoïste, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas faire de la peine aux autres, qu'il ne faut pas parler comme ça, il faut être patient. Et bien à ce moment-là, si on voit qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas en accord avec ça, bien évidemment qu'on va changer. Parce que ce qui est injuste pour nous-mêmes, c'est aussi injuste pour les autres. Donc, on va changer. Mais si on reste sourd à la voix de la conscience, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on sera remis sur le métier, on retombera sur les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, et on souffrira, parce que c'est là l'origine de la souffrance. Et il faut bien comprendre que c'est par le biais de toutes nos erreurs qu'on apprend à distinguer le bien et le mal, et que c'est en concevant que ce qui est mal ne doit pas être fait, doit être évité, et que ce qui est bien doit être fait, que finalement toute l'humanité avance progressivement dans l'évolution. Alors, si nous continuons malgré tout à être comme on est, à penser d'une façon erronée, avec ce sentiment de séparativité, sans vivre la solidarité entre nous, entre les hommes mais aussi avec la nature, eh bien, on continuera à souffrir, on continuera à avoir du chagrin, il continuera à y avoir des guerres, des épidémies, plein de choses qui sont négatives, des tremblements de terre, plein de choses. Et on a l'impression que parfois la nature, elle se secoue un peu comme le chien se secouerait pour enlever les parasites, parce que ces parasites le font souffrir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord, donc nous ne sommes pas en accord avec la nature. Alors, non seulement nous sommes ignorants, mais en plus, on a des idées fausses. Alors, on a l'impression qu'on n'a qu'une seule vie. C'est vrai, on croit ça. On pense que la conscience est apparue parce que la vie est arrivée sur Terre et que quand on mourra, la conscience va s'éteindre. Eh bien, ce sont toutes ces idées erronées qui mènent au plus grand égoïsme, qui mènent à la lutte contre les autres, pour obtenir plus de richesses, pour obtenir plus de bien-être, pour obtenir plus de plaisir. Et donc, on voit bien que c'est vraiment quelque chose, c'est ça qui est à l'origine de. Il faut avoir des idées justes sur le monde, parce que tant qu'on a ces idées fausses, on aura une vie qui sera conforme à la façon de voir les choses. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la civilisation est le résultat collectif de toutes nos erreurs, de toutes nos croyances, de toutes nos fausses vues. Et donc maintenant, il va falloir faire quelque chose, changer un petit peu. Mais pour l'instant, il faut qu'on reconnaisse que le problème, c'est qu'on a des désirs, et il faut savoir que derrière chaque pensée, il y a le désir qui est derrière chaque pensée. Et que c'est à partir de la pensée que vont s'élaborer les actions. Donc, c'est le désir qui pose problème. Si on a des désirs égoïstes, on ne pourra pas avoir des actions altruistes, ce n'est pas possible. Donc, ce désir, il faut voir, bien prendre conscience qu'il est assujetti à une personnalité égoïste. Et à partir de là, égoïste et égotique d'ailleurs, et à partir de là, c'est vraiment la cause de toute peine, de toute souffrance, de tout péché humain. Et dès qu'on prend conscience de ça, on va peut-être pouvoir changer les choses. Aujourd'hui, comment on se manifeste? Alors, on court après des tas d'objectifs, des tas de désirs. Alors, on est malheureux parce qu'on n'arrive pas à les atteindre. Mais voilà, ça y est, on a réussi à obtenir quelque chose auquel on tenait beaucoup. Ah, voilà, on est heureux. On est heureux. Mais, malheureusement, ce bonheur ne va pas durer longtemps. Il va se transformer en une sorte de contentement. Puis après, une habitude, et puis après, peu à peu, l'habitude, eh bien, elle va devenir ennuyeuse. Alors, il va y avoir d'autres désirs. Et on n'arrête pas d'avoir des désirs. On n'arrête pas d'être en attente de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on a besoin et qu'on n'a pas. Donc, du coup, on souffre, on n'est pas content, et puis voilà. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui sont toujours dans la crainte qu'il va leur arriver quelque chose. Alors, elles vont anticiper des tas d'événements qui sont affreux, qui vont arriver, que finalement, ça n'arrive pas forcément. Donc, eh ben, elles ne peuvent pas être heureuses parce qu'elles ont peur. La peur, on ne peut pas être heureux quand on a peur, c'est pas possible. Donc, elles sont toujours angoissées. Il y a d'autres personnes qui ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont. Alors, elles sont tellement perfectionnistes parce que c'est vrai, bien sûr, toujours, tout ce qu'on a pourrait être amélioré, on ne dit pas. Mais la soupe est trop salée, le café est trop froid, il n'y a rien qui va. Donc, c'est pareil, ces gens ne peuvent pas, sont pas satisfaits, ils ne sont pas heureux, ce n'est pas possible. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors il faudrait que notre mental soit déjà dans l'instant présent, à contempler ce qu'il y a là. Dans toute situation, il y a du positif, il y a du négatif. Ce sera toujours comme ça. Eh bien, il faut se baser sur le positif. Il faut savoir qu'une bouteille peut être à moitié vide ou à moitié pleine. Ça ne change rien de voir l'un ou l'autre, ça ne change rien du tout au fait du contenu de la bouteille. Mais par contre, ça change tout dans notre façon d'être, de concevoir la chose. On est beaucoup plus heureux quand on regarde que le positif. Et avec le négatif, eh bien, il faut faire avec. Si on peut faire quelque chose, faisons-le. Mais si on ne peut rien faire, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne sert à rien de se lamenter sur l'inévitable. Et quand il nous arrive quelque chose de terrible, de grave, oui, tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire, c'est quand ces personnes qui sont jamais contentes, ça va jamais, ou qui ont peur de l'avenir, eh bien, c'est quand il leur arrive quelque chose de très grave, qu'elles se rendent compte qu'elles étaient heureuses avant, mais elles ne le savaient pas. Et là, par contre, quand il nous arrive quelque chose de très grave, ça peut arriver, il y a des événements terribles qui peuvent arriver dans une vie, eh bien, il faudrait essayer de les prendre d'une façon sereine. Alors, comment faire pour prendre les choses d'une façon sereine? Ça paraît absurde. Eh bien non, parce que si on a bien compris que toutes les choses qui nous arrivent, ce sont des causes que nous avons engendrées nous-mêmes et qui vont nous apprendre à tirer des leçons, et quand on aura tiré des leçons, on va grandir, l'âme va s'épanouir. Eh bien, à ce moment-là, quand on comprend ça, on ne va pas se révolter contre ce qui nous paraît injuste, parce qu'il y a de la justice quelque part. Et il y a de la justice quelque part, et ça, les gens qui racontent qu'ils ont fait une NDE et qui revoient leur vie passée, et qui revoient tous les événements avec une vision beaucoup plus élevée, beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, ils voient l'enchaînement des causes et des effets de ce qui leur est arrivé, pourquoi ils ont vécu ça, et ils en comprennent la justice. Mais nous, c'est ce regard-là qu'on devrait avoir, un regard où on a confiance dans la loi de la vie. Confiance, on sait qu'il y a la loi de karma, on sait qu'il y a l'évolution et qu'on avance tous dans l'évolution. Donc, on a confiance, peu importe ce qui nous arrive, même si c'est grave, eh bien, on accepte les choses sereinement et on voit ce qu'on peut faire. Si on peut faire quelque chose, il faut s'y engager. Mais si on ne peut rien faire, eh bien, tant pis, attendre. Après la tempête, eh bien, le soleil réapparaîtra automatiquement. Alors, donc, il faut aussi donc bien comprendre une chose, c'est que c'est celui qui est à l'origine de la perturbation qui devra lui-même rétablir l'équilibre. Donc, c'est pour ça que les événements nous arrivent comme ça. Donc, c'est parce que c'est nous qui devons changer quelque chose. Et comprenons que nous sommes véritablement une âme en évolution. Alors à ce moment-là, eh bien, on ne va plus s'identifier au corps de chair avec tous ses appétits, mais on va essayer de déployer vraiment les potentialités latentes qu'il y a au fond de notre nature. Et en éveillant cette nature spirituelle qui est en nous, de façon à spiritualiser tous nos instruments, spiritualiser nos véhicules de conscience, en s'ouvrant de plus en plus à l'amour universel, en réalisant la fraternité universelle. Et à ce moment-là, on va s'approcher de plus en plus près du soleil, parce qu'il va falloir s'unir au soleil. Le rayon doit retourner dans sa source. Donc il faut bien comprendre ces choses. En fait, il faut voir que nous sommes un grand océan. Et chaque goutte fait partie de cet océan. Mais quand une goutte change sa nature, eh bien c'est la nature de l'océan qui est changée. Mais il faut voir que chaque goutte aura un effort à faire. Il faut qu'il profite de l'impulsion donnée par ceux qui peut-être ont déjà changé un peu la nature de l'océan. Il faut qu'il en profite, mais il faut qu'il fasse les efforts lui-même. Toutes les gouttes devront faire les efforts elles-mêmes pour s'élever finalement, pour spiritualiser tous leurs instruments. Et il faut savoir qu'avant qu'un champ de fleurs soit complètement épanoui, eh bien, il y en aura toujours quelques-unes qui vont s'épanouir avant toutes les autres. Et elles sont un peu les précurseurs de la future floraison qui va arriver dans ce champ. Et il faut comprendre que nous avons le libre arbitre. L'impulsion qui est donnée par la nature, elle se fait d'une façon naturelle dans les règles inférieures. Mais l'homme, il a le pouvoir de conscience réfléchi, c'est-à-dire qu'il peut s'auto-juger parce qu'il peut se revoir dans le passé et dire non, ça c'est pas bien, il faut que je change. Et puis après, il peut se projeter dans l'avenir, donc faire des choix conscients. Et à ce moment-là, il faut savoir que l'homme peut se lever et il peut prendre sa vie en main et pour aller finalement dans ce sentier qu'ont montré ces grands maîtres spirituels qui sont des éveillés. Parce que des éveillés, il y en a toujours eu dans l'humanité. Et des éveillés qui montrent la voie d'ailleurs, parce qu'ils sont arrivés jusqu'à un certain point. Et Madame Blavatsky en a parlé comme étant des maîtres de sagesse, comme étant un Mahatma. Et Mahatma, précisément, ça veut dire grande âme. Une âme qui s'est déployée. Et nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes en évolution. Donc ça veut dire qu'il va falloir que nous aussi, on peut prendre notre évolution en main et suivre la voie de ces grands sages. Et en même temps, on va passer par quoi? On va passer par le délestage de tout ce qui est superflu pour aller à l'essentiel. On va devenir plus égoïste, on va perdre tout égoïsme aussi. Et puis, on va finir par se libérer de la réincarnation. Et puis, peut-être, en continuant dans cette voie, on va procéder à des renoncements de plus en plus importants et arriver à un état béatifique qu'on appelle le nirvana, où il n'y a aucune vague. Un état de plénitude absolue, paraît-il. La souffrance n'existe plus, même l'ombre de la souffrance n'existe pas. Alors, est-ce que ce n'est pas ça, la béatitude, finalement, l'affranchissement de toute souffrance? Ben, bien sûr que oui, c'est ça. Mais dans la voie du silence, il est dit: peut-il y avoir béatitude quand tout ce qui vit doit souffrir? Et seras-tu sauvé et entendras-tu le monde entier gémir? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'effectivement il y a une possibilité d'aller très haut. Mais il ne faut pas vouloir le salut personnel, il faut vouloir aller très haut au maximum pour déployer tous les pouvoirs qu'on a en nous et pour les mettre à disposition de toute la nature, pour participer à l'éveil de l'ensemble. Parce que ces grands maîtres dont on parle, ils forment une grande chaîne de fraternité et ils sont prêts là à œuvrer dans l'humanité dès qu'ils peuvent. Dès qu'ils peuvent, ils font quelque chose, que ce soit d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel. Et donc, il faut savoir que ces grands, quand ils ont atteint le salut, eh bien, ils ne l'ont pas atteint tout seuls. Ils ont été aidés. D'abord, ils ont eu des parents, qui leur ont appris, qui se sont occupés de leur corps physique, les ont guidés autant qu'ils ont pu. Et puis, ils ont eu des frères, des sœurs, des amis, des compagnons, avec qui ils ont échangé beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Et puis, ils ont eu des instructeurs spirituels qui leur ont montré la voie. Et donc, il faut bien comprendre que la solidarité entre tous les êtres. La solidarité, eh bien, elle impose que celui qui arrive à de pareilles hauteurs, eh bien, travaille pour les autres, travaille pour l'éveil des autres. Et il paraît que c'est une voie rapide, ça on le sait bien, mais c'est la voie rapide la plus facile. Pourquoi c'est la voie rapide la plus facile? Parce que la voie du silence dit « aide la nature et travaille avec elle ». Et la nature te considérera comme l'un de ses créateurs et fera sa soumission. Et devant toi, elle ouvrira tout grand les portails de ses chambres secrètes et mettra à nu les trésors cachés dans les profondeurs de son sein pur et vierge. Impolluée par la main de matière, elle ne montre ses trésors qu'à l'œil de l'esprit, à l'œil qui jamais ne se ferme, l'œil pour lequel il y a nul voile dans tous ses royaumes. Eh bien, ami, c'est la voie du yoga. C'est la voie du yoga intégral, c'est-à-dire du yoga royal, parce que tous les aspects de l'homme sont engagés dans cette voie. L'homme a une tête pour penser, a des mains pour agir et un cœur pour aimer. Alors, une tête en pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec son intelligence, il doit comprendre tout. Il doit comprendre les lois de la nature. Il doit comprendre le but de la vie. Et il doit étudier les enseignements de ceux qui sont justement arrivés au sommet de ces voies d'éveil. Et il doit, après, essayer de voir si ça répond en lui à quelque chose. Et c'est quand il fait cette introspection en lui-même pour voir si ça répond à quelque chose qu'il ouvre les portes d'accès à la connaissance. Parce que la connaissance, elle n'est pas extérieure, elle est en soi. Et puis aussi, cela invite bien évidemment à la méditation pour pénétrer réellement cette connaissance à tous les niveaux de la nature. Un cœur pour aimer, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est attaché à des tas de choses qui sont futiles, on a des fausses valeurs parce qu'on est pris dans l'illusion de la séparativité comme on a dit tout à l'heure. Mais il va falloir refonder des vraies valeurs, les siennes, des vraies valeurs à partir du beau, du bien, du juste, parce que maintenant l'homme doit sentir l'unité, il la voit, il la vit quelque part. Il doit sentir l'unité de lui-même avec tous les êtres, mais en même temps, il doit sentir l'unité avec le cœur essentiel de sa nature et les êtres aussi, tous dans ce cœur essentiel de la nature. Donc là, il refonde ses vraies valeurs au niveau du cœur, il va créer des attachements, des aspirations sur un plan beaucoup plus élevé. Ensuite, des mains pour agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'engager. Il va s'engager dans des actions qu'il jugera justes et bonnes, dans des actions pour aider les autres. Mais tout ça, ça va lui permettre une véritable conversion. Il va passer de l'homme personnel à l'homme personnel qui avait bien évidemment des besoins, des envies égoïstes, tout ça. Et bien évidemment, avec ça, des joies et des souffrances sans fin, mais à l'homme impersonnel qui est vraiment ancré dans sa nature essentielle, et à ce moment-là, il est heureux par lui-même, satisfait d'agir pour les autres, satisfait de faire son devoir. Et donc, cette voie, amis, c'est aussi bien évidemment la voie de la transformation intérieure, donc de la voie de la purification complète. Et cette voie, elle passe par les paramitas ou par les vertus de transcendance, les paramitas du bouddhisme. Et c'est aussi la voie donc qui est décrite dans la voie du silence comme étant les sept portails, les sept clés qu'il faut avoir. Alors la première clé, c'est dana, la clé de charité et d'amour immortel. C'est le fondement de tout qui est basé sur l'unité de la nature. Sans cette clé, toutes les autres seront faussées. Il faut savoir que sans amour, il ne peut pas y avoir de manifestation. L'amour, le désir, c'est la première chose qui vient et qui va pousser la manifestation à se déployer. Alors il est dit, si un homme s'aime lui-même, il vit en enfer, parce que c'est un égoïste. Et on sait que l'égoïsme, c'est la cause de toute souffrance. Si un homme aime un autre, il vit sur terre. Alors là, il oscille entre joie et souffrance, entre partage et possession. Et là, donc, il vit sur terre, hein, on a dit. Et si un être aime tous les autres êtres, eh bien, il vit au ciel. En fait, son bonheur à lui, c'est le bonheur de tous les autres. Donc il va travailler au bonheur de tous les autres. Et si un être aime le soi, c'est-à-dire la véritable nature essentielle de tous les êtres, eh bien à ce moment-là, il vit réellement. C'est-à-dire qu'il est dans la réalité, il vit dans ce monde, sans être de ce monde, sans être attaché au monde, mais il est dans la réalité. Et il va travailler pour tous les êtres. Et à ce moment-là, eh bien, aucune souffrance ne peut plus le toucher. Après, la deuxième clé, c'est Shila, la clé d'harmonie en parole et en acte. C'est la clé qui rétablit l'équilibre entre la cause et l'effet. Et dans ces cas-là, eh bien, il ne crée plus de karma qui va lui procurer la souffrance. Et donc, il est en harmonie avec lui-même, avec la façon dont il sent les choses, et il agit comme ça. Donc, il ne va plus créer de karma. La troisième clé, c'est le shanti. C'est la douce patience que rien ne peut troubler. C'est la confiance absolue dans la loi qui pousse dans le sens de l'évolution. C'est vivre dans l'instant présent sans rien attendre. Cet état engendre bien évidemment la satisfaction, une satisfaction d'être, de faire son devoir. Et à ce moment-là, eh bien, il n'a plus aucun désir pour lui-même, il fait ce qu'il a à faire. Et à ce moment-là, on comprend bien qu'il n'y a plus de place pour la souffrance. Après, il y a Viragya. Viragya, c'est l'indifférence au plaisir et à la douleur. L'illusion vaincue, la vérité seule perçue. Et les émotions ne trompent plus sa vision, il voit les choses telles qu'elles sont. Et du coup, il va agir comme il faut, évidemment, parce qu'il a une vision juste des choses. Mais il est dans un état d'équilibre parfait, où la joie et la souffrance eh bien, laissent place à une sérénité complète. Ensuite, la cinquième clé, c'est Virya, l'énergie indomptable qui fraye sa route vers la vérité suprême. Là, rien ne peut plus l'arrêter. Et là, bien évidemment, la souffrance tombe en poussière parce qu'il n'y a rien qui la soutient. Il n'y a plus d'énergie qui peut la soutenir. Ensuite, la sixième clé, c'est Dhyana. Alors, la porte, une fois ouverte, conduit l'adepte vers le royaume du toujours-être. Et là, c'est un état qui ne connaît plus la souffrance du tout. Et la septième clé, c'est Prajna, la clé de ce qui fait de l'homme un dieu en le créant Bodhisattva, c'est-à-dire celui qui a atteint l'éveil et qui montre la voie aux autres hommes. Et donc, amis, voilà la voie qui est proposée par tous les véritables instructeurs de l'humanité. Alors, c'est une voie qui mène effectivement au bonheur et à la sérénité, même si l'homme travaille toujours dans le monde, parmi les tribulations, parmi les souffrances et tout, mais rien ne le déstabilise à ce point-là. Éveil, bonheur, sérénité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas pour le désir de s'affranchir de la souffrance que l'on doit entrer dans cette voie, mais c'est pour le désir d'affranchir l'humanité entière et toute la nature de la souffrance. Alors voilà.